France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Psychologie.
Musique et moi.
Jean-Pierre Luminet.
Elsa Boublil.
Mon âme est un orchestre caché. Je ne sais de quels instruments il joue et résonne en moi. Cordes et harpes, timbales et tambours. Je ne me connais que comme symphonie.
Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité. C'est sur ce grand sommeil noir, première composition d'Edgar Varèse, d'après un poème de Paul Verlaine, interprété par Mireille Delunch et l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Ricardo Chailly, que nous vous accueillons, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, spécialiste mondial des trous noirs et de la cosmologie. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille et de l'Observatoire de Paris, mais également conférencier, poète et écrivain, et vous venez de signer au Cherche Midi en coédition avec France Inter, des chroniques de l'espace, un recueil de chroniques que vous avez offertes l'été dernier sur France Inter et qui nous explique l'univers, l'espace et en quelque sorte comment on a compris si on a fini de le comprendre, ce monde infini qui nous entoure. Bonjour Jean-Pierre Luminet.
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre studio.
Le grand sommeil noir de Varèse, donc, pour vous accueillir, qui est inspiré donc du poème de Verlaine, qui nous fait en fait entendre cet inconnu, ce juste avant le noir, on pourrait dire, pour vous accueillir, parce que cette phrase de Fernando Pessoa, tirée du livre de l'intranquillité, que vous avez dite en début d'émission, me semblait entrer en résonance. Je la répète, mon âme est un orchestre caché, je ne sais de quels instruments il joue et résonne en moi, cordes et harpes, timbales et tambours, je ne me connais que comme symphonie. C'est une phrase que vous aimez.
Elle est très forte parce que je m'y reconnais complètement. Je suis un être qui est complètement pétri d'émotions, qui parfois d'ailleurs pose des problèmes d'avoir tant d'émotions devant le monde. Alors il y a les vibrations positives devant la beauté du monde, hein, une certaine beauté du monde, c'est peut-être la beauté d'une femme, la beauté de mes enfants, la beauté des œuvres d'art. Je peux frémir aussi devant la laideur du monde, qui est également là malheureusement. Et donc je vibre en permanence. Et donc voilà, c'est un orchestre et c'est une symphonie parce qu'il y a beaucoup d'instruments avec des tonalités différentes. Et puis cela résonne aussi effectivement avec ce grand sommeil noir qui tombe sur la vie. Alors pas de la façon un petit peu mélancolique, auquel on, même il y a toujours cette composante mélancolique, évidemment, dans la vie. Mais déjà, de par les intérêts que j'ai développés dans ma recherche scientifique, bon, vous avez mentionné mon travail sur les trous noirs, mais en fait, j'ai essentiellement travaillé sur la part invisible de notre univers. Nous savons aujourd'hui que l'essentiel de l'univers, quand je dis l'essentiel, c'est plus de 90% de l'univers, est gouverné par des formes de matière et d'énergie que nous ne voyons pas, mais qui sont bel et bien là et qui gouvernent son évolution, son origine et son destin. On appelle ça la matière noire, l'énergie sombre. Dedans, il y a les trous noirs, qui jouent une composante tout à fait fascinante. Et donc, je me suis toujours interrogé depuis mon adolescence sur finalement ce que l'on ne voit pas, cet invisible qui contient potentiellement ce que l'on finit par voir et par percevoir. Et c'est la même chose dans l'art, parce que j'ai un rapport très direct avec différentes formes d'expression artistique. Quand je parle donc de ces émotions qui m'envahissent lorsque je vais dans un musée, par exemple, je regarde les grandes œuvres de la peinture, je pourrais avoir la chair de poule. Et puis c'est quand même la musique qui est vraiment pour moi la forme d'art la plus extrême sur le plan des émotions, qui me fait vibrer totalement. Et comme je disais, il y a beaucoup de manières de vibrer, donc c'est pas un seul instrument, je suis pas un piano, même si je joue du piano, je ne suis pas un violon, je me sens plutôt effectivement comme un orchestre. C'est pour ça que je trouve que cette phrase de Pessoa, elle résonne très profondément avec mon être entier.
Ben, ça tombe bien, Jean-Pierre Luminet, puisque vous êtes l'invité de Musique et Moi ce matin, et qu'on va pouvoir dresser votre portrait, en quelque sorte, à travers vos goûts musicaux, qui remontent depuis la tendre enfance. On va pouvoir en parler dans quelques instants. Thank you. Neville Marriner dirige l'Academy of St. Martin in the Fields dans cette petite musique de nuit de Mozart pour évoquer avec vous vos premiers souvenirs musicaux. Jean-Pierre Luminet, je me suis peut-être hasardée en disant que c'était la tendre enfance finalement.
Oui, ça, pas tout à fait la tendre enfance, plutôt la jeune adolescence, disons 12 ans. Alors oui, ce tube de la musique classique, c'est pas aussi original a priori que la pièce de Varèse qu'on a écoutée, mais ça joue un rôle fondamental puisque ça a été ma porte d'entrée dans la musique, que l'on appelait la grande musique, dans la musique classique, puisque je crois que c'est le premier morceau de musique classique que j'ai écouté, donc assez tardivement. Donc je suis né en Provence, comme vous l'entendez à mon accent, je vivais à la campagne, à Cavaillon, oui. Mes parents n'étaient pas mélomanes, on avait une radio, mais la radio, on écoutait plutôt en musique de variété, ce genre de choses, voilà. Et à l'âge de 12 ans, on m'a offert mon premier électrophone. Voilà. Et initialement, ce que l'on écoutait, surtout sous l'influence de mon frère et de ma sœur aînée, parce que je suis le troisième d'une fratrie de trois, donc j'ai plutôt tendance à suivre ce que mes aînés faisaient. Donc, on écoutait la musique de variété de l'époque, hein. C'était Schellart, Richard Antoni, Claude-François, ce genre de choses. Et je connaissais rien d'autre de la musique. Et puis, au collège où j'étais, un de mes instituteurs, un soir, à la fin de la classe, m'a dit, Jean-Pierre, je sais que tu as eu un électrophone, et te connaissant, je pense que tu aimerais le genre de musique que tu ne connais pas. Je vais t'apporter quelques disques. Il m'a apporté quelques disques. Et vinyle. Comme ça. Et dans ce disque, il y avait la petite musique de nuit de Mozart. Il devait y avoir le cinquième de Beethoven. Et la deuxième Rhapsodie hongroise de Liszt pour orchestre. Il y avait les œuvres fétiantes, comme ça. Je suis arrivé à la maison. Je ne connaissais pas du tout cette musique. J'ai mis ça sur mon électrophone. Je suis resté cloué.
Cloué. Qu'est-ce qui s'est passé avec la petite musique de nuit? Quand vous dites cloué?
Tout simplement parce que c'est un univers musical que j'ignorais totalement et j'ai compris que ma vie allait être changée en m'imprégnant de cette musique-là. Et bon, j'avais bien vu initialement qu'effectivement Mozart, c'est pas Liszt et c'est pas Beethoven. Et je voyais déjà qu'il y avait des styles, mais une richesse d'expression extraordinaire. Et ça m'a tellement marqué que je me souviens encore des pochettes. Putain, ça remonte à plus de 55 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens encore des pochettes. Voilà. Et puis donc, ça a continué. Je suis revenu enthousiaste, c'est-à-dire mon instituteur, que ça avait été un bouleversement pour moi. Donc, il était très heureux. Et puis, progressivement, il m'a donné quelques autres disques. Et alors là, vraiment, le plus grand choc dont je me souviendrai à l'éternel. Et il me dit, tiens, je vais te faire écouter ça. Tu vas voir, c'est une musique un peu plus complexe. Tu me dis, mais ce que t'en penses. C'était le Sacre du printemps de Stravinsky. Et là, alors, c'est plus que le cloué que j'ai été totalement, enfin, comme Pessoa, là, une symphonie complètement bouleversée, avec ses rythmes incroyables. Et voilà, donc, c'est mon initiation à la musique à travers le disque, qui a été assez rapidement suivi, 2-3 ans plus tard, par le piano. Il y a un piano qui est arrivé à la maison, offert par mon parrain, enfin, un vieux piano. Et j'ai commencé à jouer du piano, et là, la passion musicale a vraiment déferlé complètement.
Thank you.
Rhapsodie hongroise en U dièse mineur, extrait des 19 rhapsodies hongroises pour piano de Franz Liszt, interprété par Alicia de la Rocha.
Ouais.
Pour poursuivre cette conversation avec vous, Jean-Pierre Luminet, vous avez pris du plaisir à l'écouter, je crois. On évoquait le fait que vous ayez eu un piano un peu plus tard, vers 15 ans.
Oui. Alors, bon, quand j'écoute l'un des rhapsodies hongroises de Liszt et d'autres pièces, j'ai toujours joué comme ça, interprété comme ça. Voilà, c'est le genre de pièce que j'aurais rêvé de pouvoir interpréter dans la version d'origine, sans simplification. Mais malheureusement, mon apprentissage pianistique tardif, hein, simplement à 15 ans, essentiellement un autodidacte, je suis jamais allé dans un conservatoire, ne m'a pas permis d'ouvrir ces portes de la technique et de notre virtuosité. Donc j'en fais des versions simplifiées. Donc j'en ai joué d'ailleurs une en un petit récital en 2017 à Paris, au planétarium du Palais de la Découverte. Il y avait quand même 200 personnes qui étaient là, où je donnais un récital de pièces pour piano, donc certaines dans leur version d'origine, et puis une version un petit peu simplifiée de la rhapsodie hongroise de Liszt, parce que c'était un petit peu pour moi l'équivalent de la Madeleine, hein, de la Madeleine de Proust, qui me ramenait à l'une de mes premières émotions musicales d'ordre pianistique.
Parce que ça faisait partie des œuvres que votre professeur
absolument,
vous a offert.
Oui, donc il y avait l'orchestre, la petite musique de nuit, et puis la cinquième semaine du Beethoven, et il y avait la deuxième rhapsodie hongroise de Liszt. Et d'ailleurs, Liszt est assez rapidement devenu un de mes compositeurs de prédilection, même si je sais que sa réputation n'a pas été toujours extrêmement élevée auprès d'une certaine partie de la critique, alors que c'est un génie absolu. Évidemment, il a énormément composé, énormément transcrit, donc il y a du bon et du moins bon, mais il y a des choses absolument fabuleuses quand on vit dans la sonate en si mineur, les études d'exécution transcende, notamment Chasse-Neige, qui pour moi c'est un des chefs-d'œuvre absolus de la musique romantique. Et puis, après, j'ai découvert toujours en autodidacte, par le disque, le concert, etc., sa musique religieuse, les oratorios, les messes, et après, les dernières œuvres de la dernière période qui ouvrent sur la musique d'aujourd'hui. Ça ouvre sur Scriabine, ça ouvre sur Schoenberg.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Quand on vous entend aujourd'hui, Jean-Pierre Luminet, que vous dites que vous êtes autodidacte, d'abord j'ai envie de savoir autodidacte comment. Vous avez appris la musique tout seul, vous avez appris à lire les notes tout seul, vous avez eu quand même un professeur qui vous a guidé.
C'est vrai que j'ai sauté un épisode. Donc je disais qu'effectivement mon premier contact avec la musique, donc la grande musique, c'était 12 ans, mais il se trouve que quand j'étais bien plus jeune, donc j'avais 6-7 ans, bon, mes parents étaient tous deux instituteurs, au collège Saint-Charles de Cavaillon, où moi-même j'étais évidemment, et puis à 4h30, lorsque 16h30, lorsque finissaient les classes, eux ils continuaient à faire l'étude, hein, jusqu'à 18h. Mmh. Donc en attendant, moi où j'allais, je n'allais pas rentrer à la maison parce que j'étais à la campagne, c'était un peu loin, j'allais à l'école de musique faire du solfège. Et donc j'ai appris le solfège, j'ai appris à solfiller la dictée musicale et à lire la musique, en même temps quasiment que j'ai appris à lire à 6 ans. Et donc tout naturellement, donc j'avais ce bagage, mais qui ne me servait à rien. Mais j'ai appris ça extrêmement facilement. Donc aujourd'hui, quand j'ai commencé à pratiquer la musique, ça a été un avantage extraordinaire parce que j'ouvre une partition, je la lis, je peux la déchiffrer assez aisément. Alors, moi, il est arrivé des fois de jouer avec des musiciens professionnels qui étaient étonnés de ma capacité à déchiffrer. Mais après, au-delà, il y a un problème technique qui m'empêche d'aller au-delà.
Technique, ce sont les doigts qui vont pas aussi vite que vos yeux qui disent
exactement,
la musique.
Exactement, oui.
Thank you.
Myung Mung Chung dirige Roger Muraro, la maîtrise de Radio France ainsi que l'orchestre philharmonique de Radio France dans cette séquence du verbe des trois petites liturgies de la présence divine d'Olivier Messiaen qu'il a composé en 43 et 44 et dont il disait la musique des trois petites liturgies est avant tout une musique de couleurs. Les modes que j'y utilise sont des couleurs harmoniques. Leur juxtaposition et leur superposition donnent des bleus, des rouges, des bleus rayés de rouge, des mauves et des gris tachés d'orange. Tout cela en draperie, en vagues, en tournoiement, en spirale, en mouvements entremêlés. Il y faut ajouter mes recherches rythmiques, rythme non rétrogradable, canon rythmique, emploi de deux citata de l'Inde antique. C'est pour continuer avec vous la conversation, Jean-Pierre Luminet, parce que ça semble être un autre émoi de jeunesse, mais c'est pas tout de suite.
Oui, alors, la découverte émerveillée du monde quasiment infini de la musique classique passe aussi par le concert. Et il se trouve que l'un de mes tout premiers concerts auxquels j'ai assisté, c'était un peu plus tardivement, je dois avoir 17 ans, je pense. C'était au Palais des Papes d'Avignon, en plus, dans une pièce, dans une salle magnifique. Et il y avait au programme Litanie à la Vierge Noire, de Francis Poulenc, et puis il y avait les trois petites liturgies d'Olivier Messiaen. Je ne connaissais absolument pas. Et j'ai été bouleversé par la pièce de Messiaen, par Poulenc aussi, que j'aime beaucoup, mais Olivier Messiaen, c'était encore un univers sonore, en plus avec les ondes Martenot, hein, qui faisait un effet tout à fait étonnant. Et finalement, c'est à partir de ça que j'ai développé une appétence particulière pour la musique du XXe siècle, même si j'ai déjà parlé du Sacre du Printemps, mais c'est un petit peu
le tournant.
La pièce inaugurale, si vous voulez.
C'est ça.
Alors c'est vrai, parce que je vois bien beaucoup de mélomanes, ils commencent avec Bach, Mozart, Beethoven, et puis la musique romantique, et puis souvent ça s'arrête à Debussy, Ravel, guerre au-delà, voilà. Alors qu'il y a le monde qui suit, il y a d'une richesse absolument extraordinaire. Donc Messiaen fait partie effectivement de ces compositeurs qui m'ont initialement bouleversé, et je n'ai eu de cesse après dans ma formation un autodidacte, toujours dans l'écoute, un autodidacte de tous les disques que je pouvais écouter, les concerts où je pouvais aller, de garder une part importante dans justement la musique du XXe siècle.
Et je ne peux m'empêcher de mettre en parallèle, Jean-Pierre Luminet, cette appétence, comme vous le dites, pour la musique contemporaine et tout ce qu'il y a au-delà de Debussy, avec votre recherche. Vous allez nous dire à quel moment c'est né en vous, cette envie d'aller regarder au-delà des étoiles, mais cette appétence aussi d'aller voir pas au-delà de l'infini, parce qu'y a-t-il un infini, mais en tout cas au-delà de ce que l'on peut voir.
Oui. Mon appétence pour les choses de l'astrophysique est venue encore plus tard, comme mon appétence musicale. Voilà, ça a été une sorte de série de concours de circonstances. Elle est essentiellement fondée sur mon intérêt et mon goût pour les mathématiques. Et là encore, finalement, parce que donc j'ai fait des études de mathématiques pures pendant très longtemps, avant de découvrir le monde merveilleux de l'astrophysique, de la cosmologie, la relativité, puis les trous noirs, etc. Et on dit souvent qu'il y a effectivement une forme d'abstraction assez proche entre l'équation mathématique et l'écriture musicale. C'est d'abord, il y a des formes d'écriture. Si on ne sait pas les décoder, on n'y comprend rien. Vous regardez les équations d'Einstein, ce sont des symboles. Si vous ne savez pas lire ce qu'il y a dans le symbole, vous ne doutez pas que ça cache un univers d'une richesse extraordinaire. Ben, c'est pareil. Si vous ne savez pas lire la musique et que vous ne l'écoutez pas, vous aurez une partition. Voilà. Mais quand vous avez le langage, vous comprenez également que ça cache un univers extraordinaire. On dit souvent que, d'ailleurs, dans le monde, je l'ai bien vu auprès de mes collègues, dans ma communauté, c'est vrai que c'est auprès de mes amis mathématiciens et des physiciens théoriciens que l'on trouve particulièrement plus de mélomanes, y compris des musiciens amateurs, enfin des pianistes amateurs excellents, qui font des choses. Donc il y a cette forme d'esprit. Et paradoxalement, on pourrait penser que ces formes abstraites pourraient être sèches, mais paradoxalement, c'est celle-là qui déclenche le plus d'émotions. Donc on ne cesse de s'extasier quand on est un mathématicien devant la beauté des mathématiques et les émotions que cela peut engendrer, encore une fois, parce qu'on sait lire derrière les symboles. C'est pareil pour la musique.
De même que je crois que les mathématiciens qui poussent leur sens du calcul peuvent associer des chiffres à des couleurs, comme le fait ici.
La synesthésie, oui, bien sûr.
Ouais.
Oui.
Thank you.
L'orchestre de la radio nationale polonaise interprète des Natura Sonoris numéro 2 pour orchestre de Krzysztof Penderecki. Une œuvre qui nous plonge dans des abîmes, quand même, Jean-Pierre Luminet.
Je sais que c'est une œuvre que certains auditeurs n'aiment peut-être pas écouter, parce que c'est une œuvre. Oui.
Pas nécessairement, mais c'est
très,
très
fort. C'est très puissant. Ouais. C'est très, très puissant. Ben, en fait, j'ai découvert les œuvres du premier Penderecki, parce qu'après, bon, il a suivi un chemin que je ne l'ai pas forcément suivi en retourné au classicisme, mais. Ses œuvres romans de jeunesse qu'il a composées dans les années 60 avec, j'avais commencé à découvrir Dies Irae, Le train pour les victimes d'Hiroshima, et puis donc, ces pièces pour orchestre là où il utilisait les micro-intervalles. Ça. Donc j'étais fasciné, effectivement, on a entendu là, dans les quarts de ton, les micro-intervalles, et puis différentes façons de faire sonner l'orchestre. Ben, la natura sonoris, c'est la nature des sons, donc qui rentrent dans la chair même, de ce qu'est le son. Et je ne me doutais pas d'ailleurs à l'époque que bien des années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, j'aurai l'occasion et la chance extraordinaire de collaborer avec un autre compositeur, Gérard Rizet, qui, avec la musique spectrale, mais d'une autre façon que Penderecki, il avait quand même une admiration pour le jeune Penderecki, puis lui aussi, et explorer également la chair même du son, rentrer dans le spectre même du son. Donc voilà, je trouve cette musique assez bouleversante. Je sais, pour l'avoir fait écouter parfois à des amis mélomanes, certains étaient un petit peu glacés par ce genre de musique. Moi, ça me provoque vraiment des émotions très très fortes, toujours cette symphonie à la Pessoa.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et vous le dites, c'est aussi l'intérêt presque physique de la chose qui vous a fait apprécier cette œuvre, Jean-Pierre Luminet. Alors justement, vous disiez tout à l'heure que au départ, vous avez suivi des études traditionnelles de maths pures.
Oui.
Comment est venu le chemin vers l'astrophysique? Comment cette voie s'est-elle présentée à vous?
Oui, donc les études mathématiques me permettaient justement de me consacrer à autre chose que les mathématiques, parce que quand on est entre guillemets bon en maths, on n'a pas beaucoup de travail finalement, on comprend les choses rapidement. Et donc ça me permettait justement de m'adonner à toutes mes autres passions, qui étaient la musique, la peinture, la littérature, l'écriture, etc.
Oui, vous
donc
écriviez
pas
mal,
j'avais pas du tout de vocation particulière. Je savais pas encore à 23, 24 ans, je ne savais pas ce que j'allais devenir, plutôt écrivain, plutôt ceci, plutôt cela, ou mathématicien, voilà. Et puis c'est simplement par le biais de lecture de livres, d'ouvrages de vulgarisation, il y en avait quelques-uns à l'époque, c'était pas beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, que je suis rentré dans cet univers étonnant et mystérieux et fascinant pour moi, des théories d'Einstein, la relativité générale, la physique quantique, d'abord dans des approches simples, évidemment, très vulgarisées, parce que je n'avais pas tout à fait forcément le bagage pour comprendre, puisque moi je faisais des maths et pas de la physique, et d'ailleurs en plus à cette époque j'aimais pas la physique, parce que j'ai compris plus tard qu'elle avait été horriblement mal enseigné. Mmh. Voilà. Et c'est comme ça que je suis entré. Je me suis dit, mais finalement, cet outil mathématique que je manipule, je manie avec plaisir, un petit peu jubilation, comme un jeu, ça peut servir aussi à traiter finalement des questions que je m'étais posées de façon... quand j'étais adolescent, que j'étais en Provence, je regardais le ciel, je voyais les étoiles briller, mais ce qui m'intéressait, c'était pas les étoiles qui brillaient, c'était, on revient sur le noir, c'est ce qu'il y avait entre. Et ce noir, c'est quoi? C'est pas le vide, probablement pas le vide, il y a quelque chose derrière qui nous dit quelque chose. Et j'ai commencé à comprendre que justement l'outil mathématique que j'avais me permettait de commencer à aborder les grandes disciplines qu'on appelle la cosmologie, l'astrophysique, qui essaient de décoder ce qu'il y a dans le noir de la nuit.
Le noir de l'étoile de Gérard Griset. On va l'écouter tout de suite, vous en parliez il y a quelques instants, Jean-Pierre Luminet.
Thank you.
Le noir de l'étoile, troisième mouvement de Gérard Griset, interprété par les percussions de Strasbourg. Alors, on en parlait tout à l'heure, Jean-Pierre Luminet, c'est une œuvre qui est née. Est-ce que c'est d'une conversation que vous avez eue avec Gérard Griset?
Oui, c'était vraiment un grand moment dans mon rapport à la musique. On est à la toute fin des années 80, je crois 88, je reçois une lettre tout simplement de Gérard Griset, qui ne me connaissait pas évidemment, mais qui avait lu quelques articles culture scientifique en astrophysique que j'avais écrit, notamment sur des étoiles particulières qu'on appelle des pulsars. Les pulsars, ce sont des sortes de vestiges de l'évolution des étoiles, ce sont des cœurs d'étoiles massives qui se sont effondrés et qui tourbillonnent sur eux-mêmes à une vitesse folle, avec un champ magnétique très puissant, donc ce sont des sortes de toupies magnétiques. Naturel, voilà. Et ils émettent dans l'espace, non pas des sons, bien entendu, vous savez que le son ne se propage pas dans l'espace, il n'y a pas de support matériel pour ça, mais ils émettent un signal électromagnétique dans le domaine de radio, mais c'est un signal très focalisé. Finalement, un pulsar, c'est comme un phare, c'est une sorte de phare cosmique, avec un faisceau de rayonnement radio, et le phare balaye l'espace en tournant. Et lorsque le faisceau passe devant la ligne de visée d'un radiotélescope, eh bien, on détecte le signal, de façon très brève. Et comme l'étoile tourne, le signal est modulé par la rotation de l'étoile, on a un métronome cosmique.
Il se répète,
un signal extrêmement régulier qui se répète. Et donc, Gérard Griset, qui s'intéressait à l'astrophysique, il a eu l'occasion d'écouter des cassettes que les radioastronomes s'amusent à faire, justement, de ces rythmes cosmiques bruts que l'on entend dans l'espace. Il n'y a pas que les pulsars, les éruptions solaires, la conversation magnétique entre Jupiter et ses satellites, ce genre de choses. Et il a dit, j'aimerais en faire quelque chose. Voilà. Et donc, sachant trop à qui s'adresser dans le monde de l'astrophysique, il m'a écrit une lettre à moi. Il ne savait pas, évidemment, que je le connaissais, puisque, avec mon appétence pour la musique du XXe siècle, j'avais déjà un ou deux vinyles dans ma discothèque avec des œuvres de Gérard Griset. Donc, pour moi, c'était merveilleux d'être sollicité par un compositeur qui n'avait pas encore donné le meilleur de lui, même en plus, mais dont je sentais que c'était vraiment la musique spectrale, c'était quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Et donc, il m'a proposé, donc nous avons travaillé ensemble, nous sommes rapidement devenus amis, on avait vraiment des fibres communes pour une quantité de choses de l'histoire de l'art en général, la peinture, la littérature, la poésie, la musique bien entendu, la gastronomie, la cuisine, enfin tout ça. Voilà. Et donc nous avons conçu donc cette pièce qui s'appelle Le Noir de l'Étoile, qui est assez développée parce qu'elle dure une heure, donc qui est écrite pour 6 percussionnistes humain, et puis deux, ce qu'on peut appeler des guest stars, mais au sens propre du terme, des étoiles invitées qui sont invitées dans le concert. La partie que l'on a entendue, c'est la fin. Vous n'avez pas entendu ces signaux astronomiques. Là, c'était les pures percussions. Il y a des fenêtres d'écoute. Il y a au moment précis de la partition, il y a des fenêtres où les musiciens humains s'arrêtent de jouer et arrivent dans la salle ces sons cosmiques absolument extraordinaires, je répète, émis par des étoiles mortes depuis des milliers d'années. Et on voulait avec Gérard également réfléchir sur ces deux temps apparemment incommensurables, le temps des astres et le temps des hommes. Normalement, c'est des temps qui n'ont rien à voir. Et par l'intermédiaire des pulsars, on arrivait à les mettre ensemble dans une œuvre musicale. Le battement du cœur de ces pulsars, de ces étoiles mortes, résonnait avec les battements du cœur de l'auditeur. Et c'est cette œuvre-là, donc Le Noir de l'Étoile, qui est devenue une œuvre fétiche du répertoire de la musique pour percussion.
Et l'œuvre est prodigieuse. Alors c'est vrai, quand l'humain s'empare de ce qu'il perçoit, de ce qui se passe dans l'univers, ça donne toujours des belles choses, parce que finalement, on parle aussi de ces mystères, on essaye de faire entendre ces mystères, et c'est pour ça que je voulais vous offrir ce matin cette musique-là. Une dernière toute petite modulation dans ce Great Gig in the Sky, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, qui est une surprise pour vous, parce que c'est pas du tout le genre de musique que vous écoutez.
Absolument, voilà. Donc, je sais pas si c'était une devinette, vous m'auriez pas dit Pink Floyd, je n'en aurais pas su. On risque de scandaliser les auditeurs, mais je suis tellement peu féru de la pop music que, voilà, évidemment, j'ai entendu parler de Pink Floyd, je connais aussi le titre de cet album, que je n'ai jamais écouté, parce que je n'ai vraiment aucune appétence pour ce genre de musique, parce que pour moi, c'est une musique un peu simpliste, en ce sens que je ne veux pas choquer personne, hein, mais sur le plan de, moi, je suis très attaché à une forme de complexité musicale, qui parfois peut disparaître d'ailleurs quand on va parler de, je sais pas, de La Mer, de Debussy ou de David Chloé, c'est à la fois complexe, mais c'est une grande simplicité, voilà. Là, quand je parle de trop grande simplicité, c'est fondé sur 2-3 accords, 3-4 accords, il n'y a pas beaucoup de modulation. Donc voilà, c'est une musique structurellement, relativement un peu simpliste pour moi. C'est pour ça qu'elle ne me touche pas, mais je conçois tout à fait qu'elle puisse évidemment toucher beaucoup d'auditeurs.
Et néanmoins, elle s'inspire quand même, donc c'est un disque qui sort en 1972 et qui s'inspire de l'actualité.
Mais bien sûr, les choses de l'espace.
Qui s'emparent des choses de l'espace.
Bien sûr, bien sûr, n'ont pas influencé que les compositeurs de musique dite savante, et il y a un grand nombre d'œuvres. Mais oui. D'ailleurs, je cite dans mes chroniques.
C'est ce que j'allais vous dire.
Je cite une œuvre qui s'appelle Telstar, qui est vraiment un groupe de guitare électrique anglo-saxon, qui porte le nom du premier satellite de télécommunication qui a été lancé dans les années 60. Et moi, j'avais écouté ça sur un disque. Et effectivement, j'aimais bien, plus que Pink Floyd, je dois dire.
Et dans ces chroniques de l'espace, vous évoquez aussi à quel point, ça va changer la face du monde de pouvoir aller dans l'espace. Ça modifie complètement la perception que l'on a de notre Terre, qui avait déjà changé depuis un moment, mais là, qui modifie le cours des choses.
Oui, c'était un vieux rêve de l'humanité, comme je le raconte dans les premières chroniques. Oui. On refait un petit peu l'historique, où c'est d'abord une utopie, un rêve, et puis progressivement, avec évidemment les progrès de la technologie, de la science, on commence à réaliser que ça va pouvoir commencer à être possible de décoller enfin du sol. Alors au début, on se contente de faire quelques tours de la Terre, c'est déjà un exploit extraordinaire, avec Gagarine, etc., etc. Puis après, on finit par aller sur la Lune, et on n'est pas allé plus loin aujourd'hui. Et toute la deuxième partie du livre, c'est un petit peu le rêve, l'utopie de demain. Est-ce que enfin on pourra, comme le disait Tsiolkovsky, le père de l'astronautique russe au début du XXe siècle, la Terre est le berceau de l'humanité et l'homme n'est pas fait pour rester toute sa vie au berceau. Donc est-ce qu'on va vraiment arriver à quitter la Terre pour explorer d'autres planètes et non pas l'explorer pour conquérir? Je n'aime pas le mot de conquête spatiale, il y a un côté guerrier, etc. Ouais. C'est explorer l'espace, c'est pour découvrir des choses qui nous sont étrangères. Et comme je le dis dans le livre, pour moi, le vrai but de tout ça, de cette exploration spatiale, au-delà d'avoir envoyé quelques bons hommes marcher sur la Lune, on envoie des télescopes dans l'espace, des sondes spatiales, c'est pour essayer de mieux comprendre ce qui nous était étranger, parce que l'univers nous est fondamentalement étranger finalement, et en comprenant mieux ce qui nous est étranger, on comprend l'altérité, et donc on se comprend mieux nous-mêmes. Et c'est une sacrée leçon dans le monde d'aujourd'hui de comprendre l'altérité, sans avoir besoin effectivement d'aller chercher à comprendre les trous noirs, le Big Bang. L'altérité, elle se présente autour de nous.
Oui, vous terminez le livre comme ça, en disant la quête des mystères de l'univers qui passe par l'imagination créatrice des astrophysiciens autant que par l'exploration spatiale est l'un des moyens les plus efficaces pour comprendre ce qui nous est étranger et lointain, autrement dit pour accepter l'altérité. Oui. Je suis persuadée que la sauvegarde de notre civilisation en dépend de façon cruciale.
Thank you.
un extrait de l'introduction de Parsifal de Wagner par l'orchestre du Metropolitan Opera de New York sous la direction de James Levine. C'est
après ce qu'on vient de se dire. Particulièrement envoûtant. Envoûtant, dans lequel je suis rentré progressivement, plutôt tardivement. Mais c'est vrai que quand on y rentre, c'est difficile d'en sortir. Ça reste un trou noir, la musique de Wagner. Oui.
Ça reste
non, mais Parsifal joue un rôle particulier. Alors j'ai un souvenir en fait particulier lié à Parsifal. C'était au début des années 90, j'étais invité à un colloque sur le temps et la musique. Et donc c'était un colloque très pluridisciplinaire dans le midi de la France, d'une belle fondation, qui réunissait à la fois des physiciens, dont j'étais, il y avait aussi Prigogine, hein, un grand physicien, prix Nobel, des musicologues, des interprètes de la musique, et tout un ensemble de choses. Voilà. Et on discutait un petit peu voilà, des conceptions du temps en musique, mais aussi en physique. On m'avait demandé justement un petit peu de raconter un petit peu l'historique de l'évolution des conceptions que l'on se faisait sur le temps. À un moment, je parlais de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, justement c'est l'époque des compositions de Parsifal, où on commence à soupçonner que finalement l'espace et le temps ne sont probablement pas des entités séparées, mais qu'il va falloir les réunir pour avoir une nouvelle physique qui va finir par aboutir à la théorie de la relativité d'Einstein. Voilà. Et pour illustrer ça, je dis, ben, voilà, je vais vous faire écouter un extrait de Parsifal, et c'est l'extrait où Gournemanz dit à Parsifal, tu vois mon fils, ici le temps devient espace. Et je montre la partition en même temps, je fais écouter, je monte dans le partition et je montre comment dans la partition même, on a la forme d'écriture change, on a le temps, c'est-à-dire on a plutôt une sorte de déroulement horizontal et subitement apparaissent dans la musique des blocs verticaux, plutôt spatiaux si vous voulez, etc. Ou qui voilà une transposition de ce temps musical qui devient, qui se spatialise. Voilà. Et alors je me souviens, si j'en parle, c'est parce que dans l'auditoire il y avait André Boucourt-Echelieff. Voilà. Et que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais de nom évidemment, hein, un grand musicologue et puis même compositeur exceptionnel aussi. Quand j'ai fait ça, il s'est levé, il s'est tourné vers la Suzanne, il a dit, il a tout compris! Le musicologue n'a pas compris, il a tout compris. Donc on est devenus amis, j'étais sympathisé, j'étais un homme absolument adorable, André Boucourt-Echelieff, après je suis allé chez lui, et voilà, je lui fais plaisir parce qu'il avait composé des pièces très intéressantes qui s'appellent les archipels, c'est une forme de musique aléatoire où vous avez sur la partition, vous avez des îlots musicaux et les interprètes vont naviguer comme ils le veulent à travers les îlots musicaux, donc il y a une part d'aléatoire dans l'interprétation, et comme moi, à cette époque-là, je commençais à travailler sur ce que j'appelle la topologie cosmique. C'est une discipline un petit peu compliquée, je ne vais pas rentrer dans des explications, mais finalement, on étudie des sortes de rapports aléatoires de voisinage entre des structures géométriques bizarres. Et j'avais expliqué finalement à André Boucourt-Echelieff que ces archipels avaient une corrélation avec les travaux sur la topologie cosmique. Il était absolument éberlué de ce genre de choses. Donc c'est un beau souvenir.
Et pour en revenir à Parsifal, vous disiez, vous faisiez une comparaison avec les trous noirs, mais moi, en l'écoutant, je me disais aussi, finalement, est-ce que cette façon que Wagner a de nous faire entendre presque une perfection de la musique, une perfection qu'on pourrait identifier la perfection de la nature, quand on écoute ça, je pense à votre métier, à votre travail, à ce beau livre que vous avez écrit sur les chroniques de l'espace, et je me demandais si au fil du temps, à force de travailler sur ce lointain espace, ça ne vous avait pas permis aussi d'avoir un rapport à la proximité, à la nature, encore plus fort et encore plus dans le présent, Jean-Pierre Luminet.
Oui, c'est une belle réflexion, une belle question, parce que parfois, un peu superficiellement, on a au contraire tendance à en penser que voilà, pratiquer ce métier-là, peut-être plonger dans les mystères lointains de l'univers, a tendance un petit peu à nous éloigner du réel, à nous déconnecter de ce réel-là et de la vie de tous les jours, ce qui n'est absolument pas le cas. Au contraire, je pense que ça permet de creuser davantage et de l'approfondir. J'aime beaucoup une phrase de Gaston Bachelard qui parle de la double profondeur du cosmos et de l'âme humaine. Et on en revient aussi à Pessoa, hein, l'âme humaine qui vibre devant toute chose. Alors ça peut vibrer en faisant de l'astrophysique parce qu'on essaie de percer avec une poignée d'équations mathématiques quelques mystères extraordinaires du cosmos très lointain. Voilà. Mais ça vibre également intérieurement. toute ma poésie, vous avez fait allusion au départ au fait qu'effectivement j'étais également poète, j'ai publié beaucoup de recueils de poésie, c'est une exploration des profondeurs de l'âme humaine, en utilisant parfois des termes venant du cosmos, mais évidemment purement métaphoriques, et tout ça pour, voilà, c'est l'âme qui vibre en permanence de toutes ces émotions. Mais c'est vrai que cette fréquentation quasiment quotidienne de ces objets bizarres et fascinants, les trous noirs, la matière noire, l'énergie sombre et le Big Bang et ceci et cela, etc., loin de nous éloigner du cœur de l'univers, nous y replace.
Et c'est sur ces mots profonds qu'on va se quitter, Jean-Pierre Luminet. Rappelez que les Chroniques de l'espace ont paru au Cherche Midi éditeur en coédition avec France Inter. Oui. Bien sûr qu'on peut réécouter toutes les chroniques en podcast, oui, évidemment. Et puis vous remercie. On va se quitter avec La Mer. Je crois que c'est l'œuvre que vous écoutez pour vous détendre. Et avec tout ce que vous venez de nous dire, ça ne m'étonne pas.
Oui, mais dès que j'entends La Mer, je sens les embruns, je sens les vagues. Et oui, c'est un univers merveilleux.
Un grand merci à vous, Jean-Pierre Luminet. La mer, dialogue du vent et de la mer de Claude Debussy, interprété par le New Philharmonia Orchestra sous la direction de Pierre Boulez. C'est la fin de cette émission en compagnie de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, dont les chroniques de l'espace ont paru au Cherche Midi, éditeur en coédition avec France Inter. C'était l'invité de Musique et moi ce matin. Un grand merci à Pierre Monteil qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production, Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique. N'hésitez pas à aller retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. On se retrouve dimanche prochain à 11h et une très belle semaine à vous.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.